Et t'as les wartime founders qui, eux, en fait, sont dans les situations de crise les plus extrêmes, en fait, se révèlent. Nous, on est vraiment des wartime founders. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bon, je devrais pas dire ça, mais la situation de crise actuelle fait qu'on tire le meilleur de nous-mêmes. On est en train de détruire, de démonter, clairement, les compteurs. Parce qu'en vrai, on s'en est rendu compte, là, dans cette crise, encore, par rapport à notre expérience qu'on a eue, notamment avec Texas, où on s'est vu au pied du mur, on a trouvé, on a su rebondir. Et là, avec cette crise-là, on arrive à rebondir de manière encore plus fracassante.
Bonjour à tous, bienvenue chez Innovation Leaders, le podcast de la communauté Together by Tech, propulsé par Equiden, qui a pour objectif de vous inspirer et vous donner des tips pour une meilleure utilisation de la tech au service de votre performance personnelle, de celle de votre équipe ou encore celle de votre organisation. Vous retrouverez toutes les notes de ce podcast sur notre site togetherbytech.com. D'ici là, bonne écoute. On va rentrer dans un univers deep tech aujourd'hui. Je vous rassure, on va rester dans un niveau de vocabulaire digeste, sinon moi aussi, je vais vite être paumé. On va à la rencontre de Covry, une startup fondée il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2020, en plein milieu du confinement. Startup hyper récente et qui visiblement se fiche pas mal du Covid et de ses impacts économiques, parce que vous allez voir, les chiffres sont affolants. Covry, c'est une équipe qui s'est mise en tête de faciliter la vie des développeurs. Et pour nous en parler, je suis très content de recevoir Romaric Philogène, qui est le charismatique et très authentique CEO de cette jeune pousse. Salut Romaric.
Salut Geoffrey, merci beaucoup.
Eh ben écoute, merci d'être là. Content de prendre un peu de temps avec toi, tu sais, parce que je t'ai vu à différents sujets, notamment récemment passé à Vivatech, et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir un petit talk pour parler de Covry, bien sûr, mais pour parler de ton expérience de Frenchie, qui a traversé l'Atlantique et qui a une expérience hyper intéressante à nous partager. T'es quelqu'un qui est très tech, un tech guy, voire même un deep tech guy. Et pourtant, je sais pas si c'est pourtant, mais t'es aussi très entrepreneur, t'as un sens business. Et on en reparlera, mais t'es un bel exemple de l'équilibre, ou peut-être pas de l'équilibre, parce que je sais pas si t'es équilibré, parce que t'es à fond tech et à fond entrepreneur. Donc
peut-être pas assez équilibré.
Pas assez équilibré, mais en tout cas, t'es capable de vraiment t'exprimer dans les deux domaines, et ça m'intéresse. Et avant de parler d'entreprise, j'ai envie de savoir qui tu es, d'où tu viens, ton parcours et les boîtes par lesquelles t'es passé.
Ouais, écoute, bah merci beaucoup Geoffrey, très cool. Peut-être une petite introduction rapidement sur Covry, qui est effectivement une plateforme pour les développeurs qui leur permet de déployer leurs applications dans le cloud sur AWS de manière extrêmement simple. Donc moi j'ai un profil qui est assez atypique effectivement dans la plupart, quand on regarde la plupart des CEO peut-être aujourd'hui côté France, peut-être pas côté US, qui est très 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 technique. Donc moi je suis ingénieur plutôt back-end. À la base, j'ai commencé en travaillant dans l'infrastructure. Donc, si on repart un petit peu de la base, j'ai fait des études d'électronique. Hein, donc, je suis assez intéressé. J'aime comprendre comment est-ce que la machine fonctionne finalement, en fait, dans le détail. Je suis parti plutôt vraiment de la très très base. Hein, donc, comment est-ce que les processeurs, les microprocesseurs, etc., fonctionnent, pour remonter finalement dans les stacks. Donc, je suis passé par l'infrastructure. Donc, c'est là d'ailleurs où j'ai rencontré l'un de mes fondateurs, de mes cofondateurs. Donc, j'ai bossé dans une boîte qui s'appelle Ulink, notamment finance de marché.
Ulink, tout à fait.
D'éditeur de logiciels dans la finance de marché, qui s'amusait à faire des choses très haute performance, notamment sur des stacks Java, dans une industrie où tout évolue, notamment dans le C++. Donc, on était très tourné vers la JVM. Donc c'était relativement intéressant, donc côté infra. Et puis, je suis remonté notamment dans d'autres sphères qui sont beaucoup plus, on va dire, B2C, type Surdata, qui est une boîte d'adtech, où là, j'étais beaucoup plus sur un poste de back-end engineer. Donc, voilà, j'ai évolué vraiment dans un prisme très, très, très technique, très éloigné, en fait, des réalités marché, business, etc. Et à côté de ça, effectivement, j'ai un parcours aussi où j'ai toujours aimé, en fait, et voulu aller de l'avant, créer des choses. Je pense que d'ailleurs, en tant que tech, ce qu'on aime, c'est finalement créer des choses. Hein. Le fameux réinventer la roue. On essaye de ne pas réinventer la roue, mais on adore réinventer la roue. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes premières aventures entrepreneuriales, effectivement.
Et qui n'ont pas toutes été liées à des sujets très deep tech. Mais on va parler de la première expérience. Enfin, toi, ta première expérience, c'était laquelle ? Première expérience entrepreneuriale, j'ai envie de dire.
Ouais, la vraie première expérience entrepreneuriale, parce que j'ai eu pas mal de side projects. Enfin, je pense que tous les techs se reconnaîtront là-dedans. Mais la vraie première, ça a été Nuotard, donc qui était une plateforme qu'on a lancée, d'ailleurs avec Pierre, qui est un des cofondateurs de Covry. C'était une plateforme, un réseau social pour motards le plus gros d'Europe, hein, qui a permis à plus de 100 000 là aujourd'hui motards, de se rencontrer, de pouvoir rouler ensemble, parce que assez passionné. Moi, passionné de moto, mon associé qui est aujourd'hui toujours mon associé, qui était mon associé à l'époque aussi, passionné de moto. Et on s'est tourné vraiment sur comment est-ce qu'on peut permettre, finalement, on en avait marre de rouler toujours ensemble, etc. en moto. On s'est dit comment est-ce qu'on va pouvoir finalement rencontrer d'autres personnes dans une communauté qui est très qui est concentrée de passionnés. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre première aventure entrepreneuriale, Numota, donc une plateforme qui était une application qu'on retrouvait sur mobile, sur Android, iOS, avec toute une partie back-end. On était en self-financé, on a construit ça finalement sur le side les soirs et le week-end, notamment parce qu'on avait des jobs à côté. Et c'est quelque chose qu'on a essayé de faire décoller. Mais c'est là aussi
pendant combien de temps?
Réalité. Ouais. Pendant, c'est une bonne question. On a fait ça peut-être pendant 3-4 ans. Okay. 3-4 ans quand même. Ouais.
Donc gros ans. Succès, mais pas que un succès. Il y a eu quand même un fail à la fin et ça, c'est hyper formateur.
Ouais. Ouais. Je dirais même pas, je le mettrais même pas dans la case des succès. On peut dire que c'est un succès au sens communautaire. C'est-à-dire que la communauté a vraiment apprécié aujourd'hui cette application est toujours, elle a été rachetée. Elle est toujours utilisée. Voilà, exactement. Elle est super nuit. Ce qui est assez drôle, c'est que, et d'ailleurs, c'est un trait d'ADN qu'on a aussi encore chez Ocovery, mais j'étais tellement impliqué finalement, en fait, dans le développement de cette communauté que je reçois encore des SMS, en fait, de personnes de la communauté qui pensent que, en gros, on détient toujours la plateforme, mais c'est pas le cas, pour aller faire des balades, etc. Donc, c'est assez drôle. Mais oui, ça n'a pas été, en fait, un succès, on va dire, commercial. Ça a été plutôt un succès communautaire. Et c'est là où le pas blesse, où j'ai pu apprendre et se dire, OK, est-ce qu'on est en train de faire un business, finalement? Est-ce que c'est un business passion ou c'est un vrai business où on est là pour créer quelque chose d'assez gros sur un gros marché, etc. Et là, on s'est rendu compte qu'il manquait beaucoup d'éléments fondamentaux qu'on n'avait pas. On avait la partie technique, on avait la passion, mais on n'avait pas la fibre business.
Il y avait un intérêt business à la base ou il est venu sur le tard?
Non, mais c'était une espèce de... souvent, et d'ailleurs, je le vois dans des projets qui se lancent, on essayait de se rassurer en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on passait tellement de temps et on mettait tellement d'énergie dessus qu'on se disait, on va en faire un business, forcément, ça va fonctionner et on arrivera à tourner ça en termes business.
Et toi, ton rôle était lequel dans le projet?
Alors moi, j'étais pareil... CEO, on va dire, donc même s'il n'y avait pas vraiment de statut, donc on va dire PDG, donc c'était une boîte qu'on a créée tout de même à la fin. Et j'ai créé toute la partie, donc j'étais beaucoup plus en charge de la partie back-end, enfin côté produit, back-end Android, donc je travaillais beaucoup sur la partie back-end Android. Et puis on avait trois autres personnes, donc on avait, en gros, on était quatre cofondateurs, donc c'était assez gros, mais finalement c'était une association en fait de personnes qui étaient tech passionnées moto. Et en gros, on avait chacun des éléments techniques sur lesquels on travaillait. Donc j'avais Pierre qui travaillait sur la partie infrastructure, aussi un peu de développement, scripting, automatisation, etc. J'avais Rémi à l'époque qui travaillait sur la partie front-end et tout ce qui touchait vraiment, qui gravitait autour du front-end, il était capable d'aller aussi sur la partie mobile. Et on avait Aurélien qui était aussi sur la partie mobile et back-end avec moi, mais côté iOS. Voilà. Donc c'était un équilibre, on va dire, technique. Par contre, si on regarde finalement dans cette équation-là, où se trouvent les personnes qui font de la communication, du marketing, du sales. En tout cas, il n'y avait pas vraiment cet ADN-là. C'était vraiment une pure association technique à des fins...
de passionné de moto, voilà, passionné de tech, mais pas forcément le mindset business ou entrepreneurial. Mais bon, après, c'était un projet technique intéressant. Les époques changent parce que quand on voit des applis comme Circle, par exemple, qui aujourd'hui, il y a un certain nombre d'applis SaaS qui permettent de monter sa communauté hyper rapidement, mais vous l'avez créé de vos propres mains.
Ouais, exactement. En fait, c'est toujours un peu le fameux défi qu'on se donne en tant que tech. On se dit, mais pourquoi pas créer en fait cet outil? J'ai besoin de cet outil. Tiens, j'ai besoin d'avoir un peu de challenge technique. Et puis, j'ai toujours été alimenté par les challenges techniques. D'ailleurs, tous les choix que j'ai opérés dans ma carrière, même Covery, aujourd'hui, c'est un challenge, on va dire, moins d'ordre technique, mais justement, je travaille sur les aspects beaucoup plus business, c'est un challenge business. Mais tout ce qui est challengeant est relativement intéressant. C'est excitant et c'est ce qu'on avait retrouvé justement dans ce produit-là. Au lieu de prendre un produit sur étagère qui était déjà tout fait et qui nous permettait de faire finalement ce dont on avait besoin, on s'est dit, allez, créons quelque chose, créons un réseau social, comment est-ce que ça fonctionne, on se forme dessus. C'est là où ça a été relativement passionnant et intéressant, mais c'est vrai qu'on peut pas travestir la chose, c'est-à-dire que si on rentre en fait dans des aspects techniques sur un sujet donné, il faut assumer jusqu'au bout. C'est-à-dire que l'aspect business, en fait, il est venu en second plan parce qu'il fallait justifier le fait qu'on passait énormément de temps sur ce sujet-là, pas avec nos familles, mais écoute, c'est important, on va en faire une boîte.
Il fallait trouver une dimension business à un projet tech, en fait. Et comment tout ça s'arrête, alors?
Ah, ça s'arrête plutôt mal. Alors moi, j'ai eu un accident de moto. J'ai eu un accident de moto. Ça a permis de remettre en fait pas mal de choses à plat. C'est relativement grave. Donc la jambe immobilisée, opération chirurgicale, blablabla. Pas de moto, forcément. Bon, la moto, elle était à la casse de toute manière, donc à la limite, ça c'était même plus un sujet. Et là, la grande question, ce grand vide finalement de tout ce qu'on a fait pour la passion qui est la moto, qui s'arrête du jour au lendemain, c'est qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et les choses sont plutôt bien faites. Hein, c'est là où on se dit, la vie est assez, c'est assez drôle. Hein, parfois, hein, il y a des choses qui se passent qui font que. Et on avait été approché de toute manière par une personne qui détient en fait des concessions, donc qui aussi travaille avec des marques de motos, qui nous avait approché notamment pour pouvoir se réapproprier cette communauté, parce qu'il avait déjà pignon sur rue sur Paris et dans d'autres départements au niveau de concessions, et sur lequel en fait il était intéressé de pouvoir reprendre la main, notamment sur la solution, puisqu'il avait un projet un peu plus grand d'envergure de RP. Et c'est là où on s'est posé la question, écoute, est-ce que finalement on devrait pas passer la main sur ce sujet-là? Par contre, moi, on avait tellement investi, on va dire émotionnellement et en termes de temps, en fait, dans la technologie qu'on avait développée, qu'on s'est dit qu'on pouvait faire quelque chose en fait de cette technologie-là. Et c'est là où on a commencé à réfléchir, à se poser des questions, et on s'est dit, ok, Cardon, on peut revendre, pourquoi pas revendre finalement la communauté de moto, ok, puisqu'on n'est plus forcément intéressé, je suis plus forcément intéressé par la moto, puisque je ne peux plus en faire, et au final, ma femme m'a mis un petit
showstopper.
un petit showstopper, mais pour de bonnes raisons, et finalement, je devrais peut-être la remercier, parce que c'est peut-être pour ça que je suis toujours en vie. Mais du coup, on se dit, ok, on a une techno, par contre, qui pourrait permettre, en fait, qui bénéficiera à d'autres communautés, hein, puisque c'est vraiment un sujet, les communautés, finalement, on en trouve partout dans le sport, dans l'entertainment, enfin, dans tout, il y a des communautés vraiment à tout niveau, même la communauté des développeurs s'en est une. Pourquoi on ne mettrait pas à disposition finalement notre technologie sous forme de marque blanche auprès de ces communautés-là? C'est ce qu'on a fait finalement. Et on a créé à partir de cette première en fait expérience entrepreneuriale qui était Numota, entre guillemets, on a créé My Social App, donc une technologie en fait qui se base sur ce qu'on avait fait finalement sur Numota sous forme de marque blanche qui permettait à n'importe quelle en fait communauté de pouvoir créer une plateforme communautaire qui est très similaire en fait à ce qu'on peut retrouver sur du Facebook ou sur du Twitter avec toutes les features associées. Donc, vous avez une application, vous voulez intégrer en fait des features de chat, de feed, de gestion d'événements, chat privé, public, etc. Dans votre application, vous pouviez le faire en fait avec My Social App. Voilà. C'était ça la seconde.
Là, il y a un beau boulevard qui s'ouvre, hein, du coup.
Alors, il y a un beau boulevard en théorie, effectivement, et c'est là où aussi, pareil, la réalité rattrape. Donc, n'oubliez pas, fondateur tech, drivé par la tech, décision tech, etc. Et puis après, c'est un petit peu comme des formes, vous savez, le jeu. Enfin, je sais pas si Geoffrey, tu sais, là, les jeux que tu donnes aux enfants, notamment, qui permet, enfin, tu as les carrés, les rectangles, etc. Et que si tu essaies de faire rentrer, forcément, un triangle, peut-être dans un carré, ça a du mal. Et ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que partir d'une technologie, d'une brique technologique, en fait, et d'essayer de l'adapter, de la fitter en fait à un use case business, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas.
Et c'est ce qui s'est passé dans ces cas-là, parce que ça arrive quand même dans certains cas. Ça veut dire qu'il faut partir du use case et construire la solution autour.
Exactement. On apporte une solution à un problème qui est énoncé et on définit pas une solution puis on essaye après d'y rattacher un problème. Ça ne marche pas.
Okay.
Et ça, c'est un vrai learning finalement que j'ai eu en fait sur ces dernières années. C'est un peu un choc parce qu'on parle souvent du fameux, si tu fais un produit, on parle beaucoup du produit, on parle beaucoup de la solution au final, hein, dans notre univers. On parle du produit et si tu fais un produit, évidemment qui répond à un besoin, mais si tu fais un produit qui est génialissime, forcément il se vend tout seul. Ouais, mais avant ça, il faut pouvoir, même en tant qu'ingénieur, on est formaté d'une certaine manière qui est qu'au final, on est des problem solvers. C'est-à-dire qu'on vient souvent sur un plateau, on nous définit, en fait, un problème. On est les meilleurs pour trouver des solutions d'ordre technique, hein. En fait, finalement, on est rien que d'autre que des plombiers. Vous appelez un plombier, vous définissez, vous dites, écoutez, j'ai une fuite à ce niveau-là. Le plombier, c'est un très, très bon, en fait, problem solver. Il va vous régler le problème. Les ingénieurs, les techs, en général, c'est la même chose. Et passer dans la catégorie, en fait, des entrepreneurs, ça veut dire, en fait, trouver, finalement, déjà, pouvoir énoncer, en fait, le problème, qu'on rencontre. Pour trouver, finalement, il faut pouvoir l'énoncer pour pouvoir, après, y associer une solution. La solution, finalement, ça reste simple. Mais il faut pouvoir énoncer le problème. Le définir. Voilà. C'est ça la difficulté. Et faire le contraire, ça ne marche pas.
Voilà. Bon. D'autres learnings de ces expériences, pas abouties, pas forcément ratées, mais pas abouties.
Ouais. Une qui a fait mal à l'ego, qui a été un bon learning, qui était justement dans cette communauté de Numotard, c'était un très très bon learning, ça a été Ce qui s'est passé, c'est qu'on a mis peut-être un an à sortir une première version de notre produit. Donc, on a fait un an de R&D, soirée, week-end, pour avoir une première version de notre produit. On a sorti un produit qui était tellement parfait que c'était vraiment agréable de pouvoir le présenter. Hein. Il y avait des défauts, etc. Mais justement, on s'est rendu compte qu'on l'avait pas mis suffisamment tôt dans les mains de nos utilisateurs, mais c'était après coup. On l'a sorti un an après, ok. 6 mois d'utilisation par les utilisateurs, c'est super, on rajoute des features, etc. C'est magnifique. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a été dépassé par une... Donc, en tant que tech, nous, on fait de la tech, on fait un produit tech, on le met à disposition en fait d'une communauté qu'on adore, dont on est passionné, c'est super, c'est magnifique, ça ne peut que se passer bien. Et là, on s'est retrouvé en fait face à une boîte, donc des jeunes qui sortis d'école de commerce, qui sont arrivés finalement avec une idée relativement en fait similaire, avec un pain point en fait qu'ils adressaient dès le départ, où ils nous ont littéralement en fait écrasés, au sens vraiment businessment parlant, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue business. Et là, ça fait mal parce que nous, on avait commencé à shifter du mode OK, on fait ça pour la passion, comme je te disais, Geoffrey, on fait ça, on passe du temps, etc. C'est pour la passion, en mode où OK, ça serait bien qu'on arrive à en faire un business. Et quand on voit arriver finalement sur le marché un produit qui en 6 mois vous écrase alors que ça fait un an et demi que vous existez. Et que ce sont des gens qui sont pas techniques, qui sont en fait, qui sortent d'école de commerce et qui littéralement en fait se skyrocket leur. Là, il y a vraiment un learning à en tirer. Ça fait mal à l'ego, mais là, il y a un vrai learning.
Et qui est réfléchi. Enfin, après, la démarche n'était pas la même parce que j'imagine que la leur, elle était business first. Et vous, au départ, c'était un peu un side project qui a commencé à bien prendre. Mais le learning, c'est quoi? C'est que finalement, enfin, comme tu disais tout à l'heure, on réfléchit pas à une solution, on réfléchit à un pain point, à un business, à un marché, et après la solution suit. C'est ça?
Tout à fait. Ouais. Et tout à fait. La règle numéro 1, c'est le positionnement. C'est comment est-ce que tu positionnes ton produit par rapport à ce marché? C'est quoi la value propre? Comment est-ce que tu peux? Quels sont les compétiteurs? Qu'est-ce qu'ils font, etc. Qu'est-ce que tu proposes? Concrètement, quel est le problème que tu solves pour quel type de client, quelle typologie?
Pour quel marché, quoi.
Quel marché, cette segmentation qui est primordiale, qui est cruciale, en fait, qu'on apprend peut-être trop tard dès lors qu'on est tech, hein, parce que quand on est tech, encore une fois, on est problem solver. Ça a été un vrai, vrai learning. On s'est rendu compte que finalement, on crée une solution, un problème qui était partiel, ce qui nous permettait pas de focaliser finalement les efforts en fait d'un point de vue produit. Au bon endroit. On avait beaucoup de features, on allait dans tous les sens, on savait tout bien faire mieux que tout le monde, sauf qu'on faisait tellement tout qu'on faisait rien. Là où eux, ils avaient une feature en fait clé qu'ils ont développée, 6 mois de temps. Elle n'était pas parfaite, mais en fait, elle était extrêmement ciblée. Le messaging qui accompagnait cette feature était extrêmement clair. Et ça, la communication, c'est un truc qu'on devrait apprendre à tous les techs. Je pense que tout le monde devrait apprendre à communiquer, mais encore plus au tech, parce que c'est vraiment la clé dans la réussite de tout projet, que ce soit entrepreneurial ou pas.
Bon. Eh ben, c'est intéressant. Et cette com, j'imagine que cette leçon, en tout cas, tu as dû t'en servir le jour où tu as fait la tournée des VC et des incubateurs aux US, parce que le niveau de communication est quand même de très haut niveau. Et visiblement, ces échecs t'ont pas tué et ce qui te tue pas te renforce. Toi, t'es pas dégoûté par l'entrepreneuriat pour autant. Qu'est-ce qui te donne envie à ce moment-là de ne pas rester salarié, parce que tu t'aurais pu te dire, bon, c'est quand même chaud de monter un truc, je suis peut-être plus tech que business, et tu avais, à mon avis, pléthore d'opportunités de job où tu aurais pu aller te trouver une place confortable, mais tu te relances dans un projet comme Covery qui est pas anodin, avec un marché complexe, mondial. Voilà. Qu'est-ce qui te donne envie de te relancer? C'est plus fort que toi, visiblement.
Ah, c'est l'excitation de créer, hein, clairement, de créer et de pouvoir créer quelque chose, en fait, à sa façon et de pouvoir apporter à une communauté qu'on apprécie, sur une expertise qu'on a, en fait, toutes ces choses-là. Et c'est quelque chose qu'on n'arrive pas... Enfin, je pense que toi, Geoffrey, tu sais aussi bien que moi. C'est quelque chose qu'on porte en soi, finalement. On ne sait pas trop l'expliquer, le pourquoi du comment. Alors moi, j'ai été éduqué, mes parents sont des entrepreneurs aussi, ils sont à leur compte, j'ai évolué beaucoup dans cet environnement-là. Je pense qu'il y a beaucoup fait, hein, finalement, se prendre en main, développer des choses, essayer de créer, d'apporter de la valeur, se concentrer, enfin... Vraiment cette excitation dans l'échange, dans la création, c'est ça qui m'a plu. Je me suis vraiment pas posé de questions. Finalement, j'ai ça depuis toujours. J'ai toujours eu à côté des projets. Dès lors que je travaillais, je faisais toujours plus que la normale. Quand j'ai commencé à travailler 35 heures par semaine pour mes premières expériences, ça ne me suffisait pas. Il fallait que je travaille toujours plus pour apprendre plus pour le week-end, le soir, etc. Et s'il n'y avait pas suffisamment à manger dans le travail, bah, il y avait des projets à côté pour pouvoir en fait combler ce manque et ce vide. C'est ce challenge-là et c'est pouvoir en fait tiquer. Il y a une excitation qu'on a chez les devs. C'est pour ça que c'est quand même quelque chose qui est assez relativement génial. Alors, Dieu merci, on n'en voit pas tous des gens à chaque fois qu'on ouvre le débugger et qu'on lance un programme informatique. Heureusement qu'on ne tue pas des gens, parce qu'on tuerait beaucoup de monde. C'est qu'à chaque fois, on a cette excitation en fait du résultat immédiat, finalement, de quelque chose qu'on a fait. Et dans l'entrepreneuriat, on retrouve finalement à plus grande échelle ce schéma-là. Hein, c'est d'apporter des solutions pour tout le monde, en fait, des gens qui sont à Paris, qui sont à New York, qui sont à San Francisco, qui sont en Australie, peu importe, en fait, finalement, dans une industrie qui est en expansion. Et nous, on voulait mettre à disposition finalement notre expertise sous forme de produit, pouvoir le packager, rendre ça disponible à n'importe qui, sachant qu'on a fait ça. Ce qu'on fait chez Coveray, finalement, c'est quelque chose qu'on a fait depuis toujours, finalement, 10 ans. Voilà, on n'est pas... on a assez formaté et à un moment donné, il faut pouvoir apporter ça à plus grande échelle si on le souhaite. Et c'est ce qu'on a voulu faire.
J'allais te dire, l'idée vient comment? Parce que tu dis que c'est une tâche que tu faisais tout le temps, mais là, visiblement, tu l'as amené en... Tu l'as encore plus automatisé, cette tâche-là, pour le compte de tous les développeurs. Cette idée de... Parce qu'on est quand même loin de la communauté de motards, pour le coup.
C'est très drôle ce que tu dis, Geoffrey. Je pense que, excuse-moi de te couper,
mais
je pense que la communauté des motards et la communauté en fait des développeurs et peut-être des communautés autres en fait, elle n'est pas si différente. Okay. Je n'ai pas vu de grosses différences. C'est assez drôle. Par exemple, on était à un meet-up à New York il y a 2 semaines. En fait, donc un meet-up où on ne connaissait personne, React meet-up New York, etc. Super et tout ça dans des bureaux top. Et puis on a pu rencontrer des gens en fait qui sont passionnés. On était là tous présents en fait pour le même sujet. Comme je pouvais me retrouver sur un parking de Auchan avec des motards leur vendredi soir pour faire en gros pas du stunt mais quasi entre autres entre motards. Finalement, on est tous là à un endroit réunis parce qu'on est animé par une passion, par quelque chose qui nous porte. Et finalement, il y a pas de grande différence, moi je trouve. Okay. C'est ça qui est assez drôle, c'est génial.
Et cette approche product où tu t'impliques tes users dans ton produit et machin, effectivement, ouais. Le mindset est à peu près le même, les étapes sont les mêmes. À quel moment tu te dis que tu as envie de te lancer sur ce sujet, que tu penses qu'il y a un marché et que tu penses que tu es légitime pour aller le chercher, ce marché?
Ouais, ok. À un moment, alors, c'est assez drôle, c'est une très bonne question. En fait, nous, on a fait le Techstars, donc un accélérateur américain. Auquel on a été accepté. On s'est rendu compte d'une chose aussi qui nous manquait au-delà de la fibre business. C'était, en fait, on a postulé au Techstars pour une seule chose. D'ailleurs, si vous allez sur le site Techstars, en gros, ils vont permettre, ce qu'ils mettent beaucoup en avant, c'est le réseau, c'est la qualité du réseau. Et nous, en gros, on a fait ce travail où on s'est dit, OK, d'un point de vue technique, on est plutôt bon. D'un point de vue business, on apprend sur le tas et je pense que, voilà, il faut pouvoir apprendre sur le tas, il faut être connecté aux bonnes personnes, etc. Mais encore faut-il être connecté aux bonnes personnes. Ce qui nous manquait crucialement, c'était le réseau. Clairement. Et nous, on est rentré en fait au Techstars, on a été accepté, on a fait tous les entretiens, etc. Donc, il y a un accélérateur américain. Donc, si vous connaissez le Y Combinator,
un des deux gros accélérateurs, hein, si je dis pas de conneries.
Voilà.
Entre YC et Techstars.
Exactement. C'est les deux plus gros accélérateurs. Ils ont des modèles complètement différents. YC qui est très centralisé en fait sur la baie. Techstars est beaucoup plus en fait décentralisé et qui va développer finalement des verticales par rapport à la localité sur laquelle il se trouve. Donc, c'est assez intéressant. Donc, tirer un maximum profit finalement de la localité, de où est-ce que les founders viennent pour pouvoir en fait développer un business et faire en sorte que ça soit un modèle relativement scalable. Et nous, en gros, on a postulé au Techstars, on avait un projet qui était un autre side project. Donc, on avait essayé de lancer d'autres choses qui étaient un... Bref, on
C'est-à-dire
avait...
C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu te présentes chez Techstars avec un autre projet que celui que tu as?
Exactement. Exactement. Ah. Et ce qui s'est passé, donc un projet qui n'avait rien à voir, où là on se rend compte.
Mais t'as quand même été sélectionné pour ça, ou peut-être pas, tu vas nous dire. Peut-être que
ça, alors, c'est assez drôle parce que le MD, donc Julien Cattard, que je salue, qui nous a dit, texto, donc pas mal cité, il nous a dit, franchement, votre projet, il nous a accepté, il nous a sélectionné, il dit, ouais, franchement, votre projet, j'y crois pas du tout, quoi. Moi, alors, votre projet, franchement, j'y crois pas du tout, mais continue si vous voulez. Et par contre, il a parié réellement sur les personnes, il a vu qu'on était déterminés, on venait vraiment pour les bonnes raisons, on avait vraiment cette rage et cette envie de pouvoir en fait monter quelque chose. Et ça n'a pas loupé, hein. Au bout de 2 semaines en fait de Techstars, donc c'est un programme d'accélération qui dure 3 mois, en fait avec une pression qui est relativement importante, où on commence le matin à 8h, on finit l'été, il était 23h minuit à chaque fois. Et en gros, pendant 2 semaines où on a une phase de session qui s'appelle Mentor Madness, entre autres, on va rencontrer pas mal de monde, où on a commencé à pitcher en fait ce projet sur lequel on était arrivé. on s'est rendu compte que c'était un total flop. Hein. Vraiment, les retours externes étaient, non, mais qu'est-ce qu'ils font ces gars-là avec ce truc-là? Enfin, ça n'a aucun avenir, entre autres. Et là, on se rendait compte que finalement, ça, on ne pouvait pas porter cette idée, ce projet-là. C'est pas que le projet, finalement, qu'on avait, qui était, entre autres, d'analyser des images des réseaux sociaux pour pouvoir en sortir des insights, notamment à des fins marketing. C'est pas que c'est quelque chose qui n'est pas faisable. C'est juste qu'en fait, on n'était pas les bonnes personnes pour pouvoir achieve ça. Et on s'est rendu compte au bout de 2 semaines, vraiment le hard way, qu'en gros, là, il y avait un problème. Donc là, c'est là où on s'est dit, non, on peut pas continuer là-dessus. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre et qu'on pivote. Maintenant, on est Techstar. On peut pas échouer. On a 3 mois. On va pas se défiler. On va pas sortir. On va pas partir. On va y aller. Sachant que Techstar investit, croit en vous. Et puis, le contrat était à peu près clair. On savait qu'aussi, le projet, ce qu'on avait, c'était pas le truc forcément qui avait plu finalement au jury.
Petite parenthèse. C'est là où Petite parenthèse. Ouais. Quand tu dis ils investissent, ça veut dire qu'ils te logent, ils te nourrissent. Ou ça veut dire qu'ils investissent dans ton projet parce qu'ils prennent une part et qu'ils t'achètent une partie de ton capital à ce moment-là?
Ouais, c'est ça, exactement. C'est sur le même format qu'un YC. Okay. Avec le fait qu'ils te fournissent aussi un, donc on est vraiment in place, donc on travaille pendant 3 mois d'un seul moment. On a des bureaux, ok. On est accompagné donc par une équipe donc de chez Techstar qui fait venir aussi des intervenants externes. Donc tout est bien et super bien calibré. Il y a un vrai investissement qui est à la fois en termes de temps, à la fois en termes d'entrepreneurial et en termes monétaires. Voilà. Mmh. Donc, il y a un vrai investissement. Donc, dès lors qu'on veut vraiment s'élever en tant qu'entrepreneur, je pense qu'il n'y a pas de doute. On est au bon endroit. Maintenant, il y avait ce problème, en fait, de dissymétrie entre les personnes qu'on était, donc, l'équipe et finalement le marché, projet sur lequel on était. Projet. Voilà, le marché, le projet, et ça n'allait pas. Et c'est là où, en fait, on s'est dit, non, il faut vraiment qu'on sorte de ça, c'est pas possible. Donc un week-end, ça a été ce qu'on appelle le whiteboard, maintenant on appelle ça le tableau blanc, on va finir au tableau blanc, ça est devenu une blague. Si ça continue, on va finir au tableau blanc. Le tableau blanc, c'est en fait se retrouver devant une feuille, comme une feuille A4, finalement, où en fait, bah, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas, mais gratte, trouve, démerde-toi, trouve un truc. T'as 2 jours, t'as un week-end, tu trouves un truc, parce que sinon t'es mort.
Et là, comment tu pars? Tu pars de quoi, là, du coup?
Eh ben, c'est très intéressant et c'est là où, en fait, l'évidence est souvent sous ses yeux, dans tout. Même lorsqu'on entreprend, en fait, il faut pas essayer de chercher à faire quelque chose. C'est souvent l'évidence est là et présente, mais on ne le voit pas tant qu'on, voilà, on n'y est pas, on n'y est pas confronté. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un coup de fil, tout simplement, à mon associé Pierre. Je lui dis, mais, on a discuté avec Morgane, Pierre, tout le week-end, etc. Je passe un coup de fil à Pierre, je dis, mais c'est pas possible, on peut pas se retrouver à cet endroit-là comme ça, alors qu'en fait, on a toujours été considérés, on est des experts, on est reconnus dans notre industrie, on a travaillé chez Criteo, Datulink, pour faire ce qu'on sait faire, on a été payé des fortunes, on peut pas finalement rester là sur ça et ne rien faire. Et quelles sont les forces, le pourquoi? Et là, on a fait vraiment un travail d'introspection personnelle, c'est de pourquoi est-ce qu'en fait, on a été recruté par ces boîtes-là, qu'est-ce qu'on faisait? Qu'est-ce qui était appréciable? Quel est notre niveau d'expertise? Et qu'est-ce qu'on a? Mon associé lui-même, Pierre, a écrit un livre, en gros, sur les hautes performances MariaDB, la base de données. Enfin, à un moment donné, il faut juste. l'évidence est juste sous les yeux, quoi, sous nos yeux. Et c'est comme ça que ça a débuté. Vraiment, en 48 heures, on a shifté d'un produit qui ne correspondait pas à un produit qui était les prémices de Covery. Donc vraiment, on avait déjà trouvé, 72 heures après, on avait déjà le nom Covery. Et en gros, on s'est dit, la première itération, c'était de fournir, en fait, un database as a service. Donc, database as a service, OK, donc comme Haven, comme etc. Et là, à partir de cette matière-là, on a pu itérer et rentrer en contact. Donc, on a discuté avec des VP Engineering, des CTO, des développeurs qui se souviennent de nous, avec lesquels on échange encore aujourd'hui. J'ai revu Datadome, le CTO de Datadome, Gilles, qui je passe le bonjour il y a 2 semaines. C'est incroyable, parce qu'il nous suit depuis le début. Et aujourd'hui, voilà, on est en train de voir avec Datadome ce qu'on peut faire. Et c'est incroyable, en fait. Ça a été vraiment un profilement. Et c'est itératif.
Et là, la machine s'est vraiment emballée, parce que là, ça a été une évidence, quoi, quand vous avez trouvé l'idée.
Ça a été une évidence, une révélation. Même chez Techstar, ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. On est arrivé, on est sorti du Techstar. Donc, après le, donc, s'il y a, à la fin du Techstar, d'un batch, en fait, on a un démo day. Donc, on va pitcher devant 500 investisseurs où ils avaient loué un super. Ils avaient un super théâtre et en fait à la suite de ça, nous on n'avait même pas de produit. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait rien. On n'avait rien à montrer. Par contre, on avait un pitch super clair. On avait travaillé le positionnement, donc on avait appris vraiment toutes nos erreurs, le positionnement, ce qu'on devait faire, etc. Les pains, essayer de comprendre, etc. De la manière dont on devait se positionner, en fait, sur un marché qui était vraiment qui est en explosion. Le cloud, c'est en explosion. Et c'est ce qu'on a fait. En fait, à la suite de Techstars, en un mois, on a créé une première version de notre produit, ce qui nous a permis, en fait, en janvier 2020, d'avoir, en fait, nos 50 premiers développeurs sur notre plateforme. Et juste pour aller tout de suite, au bout d'un an, on en a eu à peu près, je crois, 7000. Aujourd'hui, on a plus de 25 000 développeurs sur notre plateforme dans plus de 100 pays. Ouais.
OK.
Ouais, c'est...
En 2 ans.
En 2 ans. Voilà, Founders Market Fit, Product Market Fit, mais il y a aussi Founders Market Fit, le truc dont on ne parle pas voilà, très souvent.
La première fois que j'entends le terme, mais c'est vrai que c'est... dans certains cas, il faut se poser la question du Founders Market Fit. Et raconte un peu les grandes étapes, parce que MVP, au bout d'un mois, enfin, ou en tout cas, first platform, et après, en termes de structuration de la boîte, parce que vous n'êtes pas resté deux tout le temps, vous êtes combien aujourd'hui? Quelles ont été les grandes étapes depuis 2020?
Ouais, on est trois associés. Il y a Morgane, donc qui est côté vraiment plus business, marketing, aujourd'hui qui gère la partie partnership aussi avec moi. Il y a Pierre qui est le CTO, donc aussi background très technique, etc. Et il y a moi, côté CEO, très, très tech aussi, très produit. Pierre gère beaucoup plus l'aspect vraiment équipe et technique en interne, donc sur les décisions. Et aujourd'hui, oui, on est 16. Donc voilà, on continue de grossir, on continue de recruter. Et on a, en termes de prolongement de la timeline, entre autres, on a fait un premier tour. Donc, à la suite du Techstars, on a fait un premier tour de 1 million en pré-seed avec les cofondateurs de Datadog, Docker, Content Square, PeopleDoc, etc. Donc, qui sont venus s'aligner sur un tour
ça
de
rassure,
1 million.
Ça en jette.
Voilà, ça rassure. Ça permet de poser vraiment, on a voulu faire un tour de smart money même sous les conditions finalement, en fait, du Covid. Hein, ça a été pas évident puisque on venait juste de démarrer, mais finalement, c'est aussi le meilleur moment pour pouvoir lancer quelque chose, puisqu'on avait un début de traction, on avait des choses un petit peu à montrer, on était capable d'exécuter vite et on était capable de faire du bruit aussi. Hein. La communication, c'est quelque chose qu'on a vraiment intégré au sein de Covery. Hein. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup en interne et aussi en externe. On communique énormément. C'est un point qui est extrêmement important. Finalement, tu peux faire le meilleur produit de la Terre. Si tu n'en parles pas, si tu ne fais pas en sorte que tes utilisateurs en parlent, ça ne sert à rien. Donc ça, ce sont des choses qu'on a aussi apprises. Et l'année d'après, donc on est sur des phases cycliques, en fait. L'année d'après, on a fait pareil. Donc là, depuis 2021, on a fait un tour qu'on a annoncé en septembre. Donc on a fait en juin, on a fait un tour de 4 millions. Donc voilà, on a levé en tout 5 millions. 4 millions, pareil, avec deux fonds qui est Spin Invest et Crane. Donc un fonds spécialisé qui est Crane sur la partie, en gros, B2B software pour du dev tool, dev infra. Et on a Spin Invest avec Dominique et Yang qui gère aussi la partie infra chez eux, qui est un gros fonds. Et on a nos investisseurs traditionnels, nos BA qui ont réinvesti, puis on a de nouveaux qui sont ajoutés comme Twilio, comme et Screen, comme Git Guardian, comme d'autres. Voilà.
Canon. Voilà. Canon. Et l'évolution, il faut s'attendre à quoi, Covery? Vous allez rester sur cette feature, sur ce positionnement-là et aller au bout du sujet, ou vous êtes en train de vous diversifier un peu? Comment est-ce que tu abordes le développement du produit?
Ouais, on va aller vraiment en profondeur. Aujourd'hui, on travaille énormément avec AWS. Donc c'est un point qui est assez important pour nous. On est sur un produit où même si on a vocation à aller, en fait, sur d'autres clouds à terme, c'est pas quelque chose qu'on souhaite faire dans l'immédiat. Et aujourd'hui, le marché sur lequel on est suffisamment gros, notamment chez AWS, pour pouvoir rester stické en gros à AWS. On travaille, en fait, de manière très complémentaire avec AWS et ses équipes. Et le but, c'est d'aller en plus en profondeur. D'aller beaucoup plus en profondeur, en fait, dans la manière dont on fonctionne pour nos clients, nos utilisateurs, etc. Puisqu'il y a vraiment énormément à faire, il y a énormément de choses à amener, en fait, de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la dimension plutôt business, et d'un point de vue communauté, on a toujours cet ADN-là, en fait. On construit le produit avec nos clients, nos utilisateurs, notre communauté. On a lancé, par exemple, un produit open source. On a beaucoup de produits, d'ailleurs, notre produit est open source, mais on a beaucoup de produits satellites en plus qui ne sont même pas forcément liés directement à Covery, qui sont open source, comme Replibyte, où on a une communauté assez émergente qui vient de se lancer. Là, on atteint les 3000 stars, ça c'est gros. On a des personnes de chez Microsoft, GitHub, Cloudflare, qui utilisent en fait ce produit-là, et on est très axé, très communauté. Hein. C'est vraiment, et c'est là où je retrouve un petit peu, finalement, c'est vraiment, moi j'arrive à faire la jonction entre les deux mondes. Finalement, le monde de la moto et le monde du dev n'est pas si différent.
Oui, je veux bien le croire. Et raconte niveau de network. Tu es allé pour chercher ça, t'es reparti avec une idée, une boîte, et est-ce que t'es reparti avec le network que tu imaginais?
Ouais, et plus, et même plus. Enfin, ça a été au-delà de même.
Ça se passe comment concrètement? T'as un bouquin, on te donne un annuaire et on te dit tu peux les appeler, t'inquiète pas, ils vont t'accueillir? Ou comment ça se passe? Ça veut dire quoi avoir du réseau?
Tu te trompes pas du tout, Geoffrey. C'est exactement ça le principe. C'est qu'on avait besoin d'être connecté typiquement à une personne de chez Airbnb, quelqu'un de chez Stripe. Véridique, hein, des choses qui se sont passées. Tu veux être connecté à telle personne, en 48 heures, c'est fait. tu es connecté avec cette personne.
Parce qu'ils sont passés par Techstars ou pas du tout?
Pas du tout. Okay. Mais que, en fait, il y a quelque chose qu'on t'apprend à faire, c'est développer ton network et faire en sorte que tu n'es jamais trop loin, finalement, d'une personne que tu souhaites atteindre. Et on t'apprend, en fait, à toujours formuler, en fait, une demande, d'être hyper straightforward et de pouvoir essayer de te connecter, finalement, en passant par X, Y, Z, donc par des points, en fait, de connexion pour pouvoir te connecter, finalement, à cette personne. Et ça marche toujours. Ça marche toujours, encore aujourd'hui. Ça marche toujours. On apprend, justement, à te connecter et à créer ton réseau. Et bien évidemment, alors là, si tu as des boîtes qui ont je pense à DigitalOcean, par exemple, avec qui on a discuté, qui on discute, DigitalOcean qui viennent, en fait, de Techstars. Bon, bah, c'est encore plus simple. Finalement, tu les as directement dans l'annuaire. T'as limite le numéro de téléphone de la personne dans l'annuaire, en fait, interne. Il y a un extranet qui est disponible pour les alumni, en fait, Techstars, qui permettent finalement, en fait, de pouvoir se connecter avec n'importe qui dans le monde. Et ça, c'est vraiment un point qui est extrêmement important. Et pour répondre à ta question encore plus, Geoffrey, moi, j'ai fait des rencontres qui sont formidables. Je pense à Amir Hossein, que je salue aussi, qui est un de nos investisseurs, à Techstars, qui a été d'un accompagnement et d'un soutien, en fait, extraordinaire. Une personne qui est hyper humble, avec un background qui est extraordinaire, qui va pas s'étaler, etc., mais qui écoute et qui a toujours, en fait, les bonnes questions, pas forcément les solutions, mais en tout cas, qui pose des bonnes questions, qui fait des introductions et qui est toujours présent, en fait, quand on en a besoin. C'est ce genre de personne, d'entrepreneur hyper successful, dont on a besoin, en fait, d'être entouré dès lors qu'on se lance. On a besoin d'être inspiré et de pouvoir monter. On a besoin des autres. Et ça a été vertueux, quoi. Chez Techstars, ils savent faire ça.
Et c'est marrant, ouais, parce que j'ai l'impression que, alors je sais pas s'ils recrutent des gens qui ont à la base ce mindset, mais j'ai l'impression que t'en ressors presque avec une philosophie. Une philosophie de on est là pour kiffer, on est là pour partager, on est là pour aider, rencontrer et. Ouais. Ouais. C'est eux qui te la donnent ou tu penses que tu l'as là-bas ce mindset et qu'ils le révèlent?
Je pense qu'il faut être prêt. Et c'est là où toute la travail de sélection, eux, ils ont une partie sélection à faire, mais je pense qu'il faut être prêt. Il faut être prêt, il faut être dans ce mindset-là. C'est-à-dire avoir fait son bout de chemin pour pouvoir être dans le, effectivement, il y a même un terme chez Techstars, c'est give first. C'est apprendre, en fait, à donner. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, je donne des sessions, j'offre des office hours, en fait, à quiconque souhaite me parler. Qui a besoin en fait d'avoir des questions. Je fais des confs, que ça soit à Station F ou que ça soit à Centrale, pour expliquer mon parcours, pour répondre à des questions, pour voir si je peux aider d'un point de vue entrepreneurial, parce que j'ai pu bénéficier moi-même en fait de cet accompagnement. Les gens ne m'ont rien demandé en retour, ils m'ont juste donné du temps. Et je considère qu'en fait, et c'est ça que Techstars inculque, effectivement, c'est un peu, on pourrait dire presque une secte, mais finalement, c'est give first. C'est-à-dire, si tu peux aider quelqu'un, et les gens sont vraiment dans cette attitude-là. C'est-à-dire, si tu peux aider quelqu'un, donner un peu de temps, l'aider à s'élever, et ben, voilà.
On croise aussi des gens qui sont dans le monde entrepreneurial assez protecteurs, qui flippent un peu de se faire piquer l'idée, qui flippent un peu de faire émerger un concurrent, ou de, voilà, et en fait, en même temps, t'as toute une frange de l'économie où les gens
Mais c'est super de pouvoir parler à ses concurrents. C'est magnifique de pouvoir parler à ses concurrents, d'avoir. Moi, j'ai un énorme respect pour mes compétiteurs. On fait des photos ensemble sur les salons. À New York, j'ai fait une photo avec Vélocity, qui est un concurrent. Je les cite même là lors de ce podcast. Enfin,
tu les respectes, quoi.
Et je les respecte. Ils élèvent le niveau, ils éduquent le marché, on travaille ensemble, les marchés. Enfin, on est dans des industries, je peux le comprendre, dans certaines industries, c'est un peu plus sclérosé, c'est plus compliqué, la concurrence, elle est rude, etc. La marge, les prix sont en décote, etc. On est dans des industries qui sont en hyper expansion. Enfin, il y a de la place pour tout le monde. C'est des marchés qui sont hyper fragmentés. Okay. Et travailler avec ses compétiteurs, c'est pas anecdotique. Ça se fait, et ça se fait beaucoup dans notre industrie.
Puis c'est peut-être eux qui vont te racheter un jour, on ne sait jamais.
On ne sait jamais comment, et on ne sait jamais comment est-ce que les choses
vont évoluer.
Vont évoluer. Il faut avoir un respect. Enfin, encore une fois, c'est important de discuter, de parler avec ses compétiteurs.
Ça me fait penser, quand on parle de mindset, pour toi qui as vécu les deux côtés du globe, entre la partie Europe et la partie US, le mindset entrepreneurial dans le monde SaaS aux US est comparable au mindset européen?
Pas vraiment.
Tu vois quoi comme grosse différence?
Il y a un petit délai, il y a un petit retard, on va dire en Europe, hein, c'est dû au fait qu'on est beaucoup tourné vers ce qui se fait au niveau des États-Unis, mais même dans le processus d'achat et de la manière finalement dont on vend un produit comme le nôtre, on voit d'énormes différences. Là où côté européen, on voit bien que Les gens aiment beaucoup utiliser le produit, ils vont tester le produit, ils aiment pas trop être reach out, on va être beaucoup plus tourné vers l'aspect technique, etc. Nous, on le voit en France. Aux US, on a une relation beaucoup plus, en fait, transactionnelle sur les bénéfices, qui est tournée tout de suite sur les bénéfices, hein, vraiment, où ça va beaucoup plus vite, hein, sur un cycle d'achat. Et c'est vraiment pas, enfin, nous, on le vit, c'est pas, je veux pas dire que c'est le cas, peut-être pour toutes les industries. En tout cas, nous, sur notre industrie, on le voit. Un client satisfait, en 24 heures, en 48 heures, un prospect qui va tester le produit, il va mettre sa carte bleue, il va être parti. Et voilà, on n'entend plus parler de ce prospect. Et évidemment, le cas contraire peut se passer. C'est-à-dire que ce client-là qui a bien converti, ben, du jour au lendemain, peut-être peut partir. Et là, c'est là où, généralement, il faut essayer de construire notamment une relation. Et la relation peut se créer avant. Peut se créer après. C'est justement quelque chose qu'on voit qui est assez dissymétrique avec l'Europe. C'est où en Europe, on va avoir tendance plutôt à créer une relation avant pour ensuite effectuer un acte d'achat. Nous, on le voit de cette manière-là. Mais ce n'est pas forcément vrai. Ça dépend encore une fois, en fait, du sizing, du positionnement, la taille. Parce que nous, on est beaucoup plus sur des SMBs, notamment sur des boîtes qui sont en croissance. Hein. On bosse avec des boîtes qui sont plutôt sur des grosses phases de croissance. Et on voit que c'est les deux choses qui nous sautent aux yeux dès lors qu'on trade avec des Européens et avec des US. Mais on a des clients qui sont partout dans le monde, en Australie, en Afrique du Sud. Et c'est vrai que l'Europe, c'est vraiment une région à part pour nous en termes de business. Hein. Okay. Il y a peut-être une différence qu'on a vue, c'est assez étrange, on ne sait pas l'expliquer, c'est qu'on a beaucoup de clients en Allemagne aussi. Et par rapport à la France, c'est deux façons aussi de fonctionner vraiment différentes, où on a l'impression quand même en Allemagne, et pourtant j'en ai discuté avec d'autres en fait entrepreneurs qui me disaient carrément le contraire, mais où bizarrement, sur notre produit, ça se passe beaucoup plus facilement en termes de transactions. Avec des Allemands, ça va beaucoup plus vite. C'est-à-dire que voilà, ils prennent le produit, ils testent, etc., ils l'intègrent, ils payent très rapidement et il n'y a pas trop de discussions. Là où avec les Français, on a toujours un peu plus de discussions en général.
Voilà. Pour comprendre, tu es sur un coût de licence mensuel qui est de quel ordre? Tu vends à l'individu ou tu vends aux sociétés, toi?
Ouais, en fait, on a un pricing model qui se base sur le nombre de déploiements. Voilà, on a un freemium donc, qui permet de déployer jusqu'à 100 fois ton application. Et puis par mois, et puis ensuite on a un premier plan qui commence à $49 peut-être par mois pour 300 déploiements. Puis on a des features additionnelles comme le nombre de clusters, le nombre d'utilisateurs, etc. qui font que derrière, ben, ça te permet entre autres d'adapter l'offre à ton besoin.
Je vous prends 10 secondes pour vous dire que ce podcast vous est proposé par Equiden. Equiden, c'est la startup qui vous accompagne dans vos projets tech, product, data et engineering et qui repense l'approche des ESN traditionnels. En 2 ans, cette société de conseil compte plus de 130 personnes et s'est déployée dans 6 pays. Pour en savoir plus et pour participer à l'aventure, suivez-nous sur LinkedIn ou sur equiden.com, E-2-K-I-D-E-N. Bonne écoute!
En termes de go-to-market, vous avez choisi un modèle un peu hybride, mais basé essentiellement sur le modèle open source. Ça implique une certaine organisation ou des conséquences, ce modèle-là. J'en ai parlé pas mal avec Hugging Face qui s'est vachement déployé en mode open source. Et je ne sais pas si c'était un pari risqué ou complètement standard dans ton industrie.
Ouais. Alors nous, c'est un peu différent parce que Hugging Face, on va faire un vrai focus open source, c'est-à-dire un développement par la communauté sur leurs produits, puis ils ont créé leur offre commerciale. Nous, c'est quelque chose qu'on a parallélisé, c'est-à-dire qu'on a créé vraiment une communauté autour de notre produit. Mais on a un produit qui finalement, en fait, par rapport à la cible qu'on target, on a un produit où la communauté, c'est pas, on va pas dire essentiel. C'est-à-dire, elle est importante, mais elle est pas essentielle dans le développement en fait du produit, puisque on a un produit qui est relativement tentaculaire, c'est-à-dire avec beaucoup d'intégrations. Et par nature, en fait, ce genre de produit, d'un point de vue open source, à développer, c'est très compliqué. Par contre, on a développé l'aspect open source pour plusieurs choses. C'est des intégrations aussi supplémentaires qui vont venir à l'avenir, mais c'est aussi pour montrer en fait de la clarté et de la visibilité sur ce qu'on fait, puisque notre produit s'installe sur le compte cloud de nos clients. Okay. Donc ça, c'est un point qui est extrêmement important d'un point de vue sécurité. Et la communauté, de la manière dont on la développe, c'est vraiment différent par rapport à la manière dont un Hugging Face ou un Strapi ou peut-être un Medisearch en fait vont développer leur communauté.
Ouais. Okay.
C'est vraiment différent. On est sur un produit d'infrastructure, là où ils sont beaucoup plus sur des produits où les end users sont des personas bien identifiés, type soit développeur directement individuel, ils peuvent tirer la valeur du produit, et dans ce cas-là, la communauté va en fait être extrêmement impliquée, soit des MLOps, soit en fait des data engineers, etc. Nous, on a en fait une plateforme qui permet de réconcilier en fait le monde vraiment des ops, des DevOps et des développeurs. Donc, on parle vraiment à deux personas distincts. Mais après, on a un produit open source qui s'appelle Replibyte, typiquement, qui lui, en fait, intéresse tout de suite les data engineers ou les développeurs. Et là, tout de suite, on a une communauté qui, en fait, se mesure beaucoup plus facilement par rapport à celle d'un Hugging Face ou d'un Strapi ou d'un Medisearch ou whatever.
OK. J'ai demandé de prendre un peu de recul parce que je repensais à la liste des tâches que tu nous as données sur les qualités qu'un projet ou peut-être qu'un entrepreneur devait avoir pour lancer son projet. Tu as parlé du founder market fit, bon, du product market fit, de la qualité de communication, de la qualité de network, enfin d'accéder à ce réseau et de pas avoir peur d'aller taper dedans. La notion de give first aussi pour t'enrichir de données, mais finalement t'enrichissant et en te boostant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que t'as ressorti de cette expérience aux US?
Ouais, non, mais le positionnement.
Le positionnement, c'est-à-dire
le positionnement marché de ton produit. Il y a quelque chose qui, c'est vraiment, je sais pas ce que t'en penses, toi, Geoffrey.
Moi, je suis dans le service, alors c'est un peu différent, mais bon, le positionnement est toujours présent.
Je pense que dans le service, tu peux avoir ce problème-là. Finalement, tes clients, et c'est là où je voulais aller, dans le positionnement, c'est extrêmement important de clarifier finalement ce que tu es en train de faire et pour qui et comment. Est-ce que tu es, où est-ce que tu souhaites aller? Ta vision doit être extrêmement claire. Tu dois la construire. La vision, c'est pas quelque chose que tu as qui est inné. C'est quelque chose que tu construis avec le temps. Et ça va te permettre, en fait, où est-ce que tu souhaites aller? Où est-ce que tu es aujourd'hui? Quel est le positionnement que tu veux avoir à ton marché? À partir de ça, tu vas déballer une stratégie, en fait. Tu vas commencer à détrouler une stratégie. Tu vas commencer à recruter tes premières personnes. Est-ce que tu vas recruter des techs ou des sales? Est-ce que tu vas recruter des gens plutôt au marketing? C'est quelle est la personnalité, en fait, de ces gens-là? Etc. Ça, c'est un travail qu'on fait pas suffisamment. En fait, les fondements de ta société, le positionnement même en fait de ton produit va avoir une influence même sur le développement de ta société, sur le développement même, puisque les personnes et l'ADN en fait que tu as donné à ta boîte va être en fait cimenté par rapport à ce positionnement là. Et c'est extrêmement important de faire ce travail là, parce que si tu n'as pas le bon positionnement, tu ne pourras pas te développer. À un moment donné, tu pourras peut-être faire ta série A, puisque si tu es sur un mode VC, ou tu vas pouvoir peut-être faire ta série. À la fin, tu taperas un plafond de verre parce qu'en gros, ton positionnement, en fait, tes fondements ne sont pas suffisamment bons. Et là, tu vas vouloir commencer à bouger ces fondements. Le problème, c'est que les gens que tu as mis, en fait, dans la société, les raisons pour lesquelles tu les as recrutés seront plus, tu es en train de changer, entre autres, les règles du jeu. En fait, pas les règles du jeu, mais en gros, le contrat, plutôt. Et ça, c'est un problème. Et ça, c'est quelque chose que je vois de manière assez récurrente, que moi-même, en fait, j'ai vécu. Et c'est un conseil, vraiment, c'est de prendre le temps, en fait, de comprendre son marché, de le connaître, de se positionner de manière clairement, et c'est un travail qui doit être fait de manière continue. Souvent, j'ai la question du comment est-ce que tu fais ça, comment est-ce que du coup tu draftes ta vie. En fait, c'est un travail qui est, je pense, inhérent au fondateur, notamment encore plus au CEO, et c'est un travail qui se fait en fait de manière itérative et de manière continue. C'est quelque chose que tu ne dois jamais lâcher. En tout cas, c'est mon avis. Aujourd'hui, moi, c'est quelque chose que je mets en application. Et la manière de le faire, c'est d'être toujours au contact. Ça, c'est la clé. D'être toujours au contact de ses utilisateurs, de ses clients. C'est la clé. Passer du temps avec ses utilisateurs et ses clients. Le reste, c'est que du... Je vais pas dire... Peut-être que j'ai tort, mais c'est que du bullshit pour moi. Enfin, le meilleur moyen.
En tout cas, c'est la partie simple. Ça suit, quoi. Ça suit.
Ouais.
Eh ben, passionnant. Au niveau du modèle de déploiement de business qu'on t'a appris, est-ce qu'on t'a formé sur, en te disant voilà, tu vas faire un seed après, tu vois, le modèle d'investissement VC dont tu parlais il y a quelques instants, est-ce qu'il y a un frame standard ou classique quand tu montes une startup product SaaS, voilà, il faut que tu ailles chercher ci, après tu vas faire ci, et puis une fois que t'as ça, est-ce que c'est un schéma classique ou chaque société a son propre sa propre vie?
Ouais, il y a une théorie, hein, on la connaît tous à peu près, seed, série A, série B, série C, blablabla. En fait, je pense que libre à chacun de faire ce qu'il souhaite, il faut être cohérent avec soi-même et s'écouter. Je pense que c'est extrêmement important et pas essayer de suivre la meute. Nous, d'ailleurs, il y a quelque chose qu'on a fait qui, à l'époque, aujourd'hui, ça paraît normal, mais on a lancé vraiment quelque chose qui ne s'était pas fait. C'est qu'on a lancé le pré-seed à 1 million.
Ouais, c'est beau.
Et maintenant, je peux le dire, mais c'était quand même quelque chose de drôle et de osé. Parce qu'un pré-seed à 1 million, ça ne s'était jamais mis, et encore moins en France. Et c'était drôle. Et il fallait le faire. Et c'était juste un marqueur. C'est là où, finalement, quand on n'a pas beaucoup d'argent, on a au moins la créativité. Enfin, faut essayer d'avoir de la créativité. Et c'est un marqueur qui permettait de montrer qu'on est sur quelque chose, on est en train de faire quelque chose d'unique. Alors, vraiment, c'était un moyen de se différencier, de encore annoncer un seed, et à, enfin, un seed à 1 million, c'est même, c'est pas impressionnant. D'ailleurs, ce qui nous a permis, le pré-seed à 1 million nous a permis d'être sur TechCrunch. Donc voilà. En étant un peu créatif, voilà. Est-ce qu'il y a un schéma donné aujourd'hui? D'ailleurs, quand on en parle avec les investisseurs, ils vous diront, aujourd'hui, enfin, il y a des, c'est n'importe quoi. On voit des seeds à 20 millions, on voit des séries A à 100 millions, on voit comme des séries A à 7 millions. En fait, il n'y a plus de règles réellement. Je pense que fondamentalement, ce qu'il faut se poser la question, c'est déjà, est-ce que ce modèle-là est fait pour moi, hein, en tant que, est-ce qu'il est fait, est-ce qu'il correspond à la manière dont j'ai envie vraiment de développer ma société, parce que c'est un vrai choix qu'il faut assumer. Nous, on a appris au Techstar, qu'est-ce que ça impliquait finalement d'être en fait une boîte qui va chercher des fonds, venture capitaliste, etc., et la manière dont les finalement les investisseurs y réfléchissent. En fait, il faut accepter les règles du jeu. Donc, c'est pas de l'argent finalement facile. Oui, lever peut-être 4, 5 millions, 6, 10 millions, 20 millions, c'est facile. Mais derrière, il y a aussi en fait une responsabilité, il y a des choses à faire. Il y a un devoir. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on souhaite en fait exécuter le fait de cette manière-là? Donc, voilà, il faut se poser ces questions-là. Il y a des conséquences en fait dans tout. Voilà, il faut choisir, il faut accepter en fait le bien comme le mal, entre guillemets, quoi.
OK. Et quelles sont les métriques qui sont les... Je ne sais pas d'ailleurs si vous êtes drivé par des métriques ou pas, mais quelles sont les métriques que vous suivez, et est-ce que ces métriques évoluent en fonction de la maturité de ton projet?
Oui, c'est un... Et d'ailleurs, c'est une très bonne question, Geoffrey, merci de la poser, parce que dans les conseils aussi, c'est de définir réellement cette North Star métrique qui fait que tu vas pouvoir prendre les bonnes décisions, même dans le brouillard, par rapport au développement de ta boîte. La North Star métrique, entre autres, c'est la métrique unique qui permet vraiment d'aligner à la fois tes intérêts, peut-être les intérêts de tes investisseurs, et les intérêts du marché et les intérêts de tes clients.
Et celles-là, elles sont standards dans l'industrie, et les VC ou Invest, ils regardent les mêmes trucs, ou c'est propre à chaque société?
Non, elle est propre à, elle est propre à ton business.
La North Star, c'est toi qui la trouves, ou on te demande, on te demande de la...
Oui.
Non, c'est toi. Okay.
C'est toi qui la trouves. C'est toi qui la trouves. Et c'est un gros travail. C'est un travail qu'on a entrepris vraiment très tôt, sur lequel on se posait beaucoup de questions, etc. Où on émet des hypothèses, et on a réussi à la définir. C'est le nombre de déploiements. D'ailleurs, c'est ce que nos clients payent finalement. Mais c'est là où ils trouvent de la valeur. C'est-à-dire, c'est là où ils vont augmenter leur capacité à être beaucoup plus productifs, déployer plus, ça les rend beaucoup plus productifs, etc. Nous, ça nous fait beaucoup plus de revenus. Ça fait aussi en sorte que tout le business se développe, etc. Et toutes les autres métriques en fait vont être tirées vers le haut par rapport à cette métrique-là. Nous, c'est notre principale métrique que l'on suit aujourd'hui. Et à côté, on va commencer à additionner, bien évidemment, le revenu, etc. Mais ça reste vraiment les métriques, on va dire, classiques, hein, d'un SaaS traditionnel, entre guillemets. Voilà.
Okay. Quelles ont été les grosses galères que tu as vécues dans ce projet-là jusqu'ici?
Les grosses galères qu'on a vécues jusqu'à... C'est une très, très bonne question. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a pas eu de grosses galères, on va dire. C'est toujours pareil, hein, ça va être les recrutements. Le recrutement, c'est, on n'a pas eu de grosses galères sur le recrutement, mais le recrutement, c'est vraiment un élément qui est sous-estimé. Je pense, faut vraiment le vivre pour le comprendre. Mais en gros, la réussite de la boîte, elle dépend vraiment des personnes que tu as dessus, que tu as dedans, que tu as onboardé, et qui vont porter le projet. On n'a pas eu de grosses galères à ce niveau-là. Quelles sont les grosses galères qu'on a?
Non, mais tu n'en as pas eu.
Je dirais que le train quotidien est une galère. Puisque il faut toujours se poser des questions, on est toujours en hyper réflexion, comment est-ce qu'on peut optimiser, comment est-ce qu'on peut améliorer, comment est-ce que c'est même pas une galère en fait. Finalement, l'entrepreneuriat en soi est une galère. Après, on reste des gens optimistes et on voit l'avenir et on se projette vraiment dans l'avenir. On voit aussi le présent, on voit que ça progresse, on a ces métriques qui sont définies, et finalement ces galères là, on arrive tout de même à les transformer en... c'est pas une galère, c'est juste en fait la normalité, quoi.
Une étape normale. Ouais. Je partage. Et au niveau des bonnes idées, il y a des choses où après coup, vous avez été content de trouver l'idée ou de faire cette décision-là. Il y a des choses qui t'ont marqué?
C'est toujours déjà ce pivot. Hein. Ce pivot, clairement, il a changé drastiquement. Nous, le pivot qu'on a eu au Techstar a été un marqueur. C'est un marqueur qui est important même, hein, d'un point de vue. C'est très dur psychologiquement parce que il y a beaucoup de pression. On est dans un cycle où on avait carrément je ne sais pas si tu imagines, mais un chronomètre qui comptait le nombre de jours avant le démo day. C'est, en fait, le démo day, tu es sur scène devant 500 personnes.
Oui, mais là où tout le monde rentre avec son sujet, toi, tu es au milieu du truc, tu n'as pas ton projet, quoi.
Et c'est ça.
C'est quand même dingue.
Et tu as ce chrono qui là défile. Tu te dis, mais putain, mais là, c'est une pression. Franchement, c'est vraiment...
C'est au pied du mur que tu cartonnes. Et là, c'est génial. Tu n'avais pas le choix. Il fallait que tu nous sortes une idée, quoi.
Ouais, exactement. Et c'est un truc d'ailleurs qu'on a remarqué chez nous, où ça c'est intéressant. Je répondis là-dessus, Geoffrey, mais je vais répondre à ta à ta question, mais c'est un truc qu'on a remarqué chez nous, c'est qu'on cartonne souvent au pied du mur. Je sais pas si tu connais, t'as vraiment les peacetime funders et les wartime funders. Les peacetime funders sont ceux qui, en fait, en période de non-crise, c'est-à-dire tout est normal, tout se passe bien, etc., dans l'écosystème, marché, d'un point de vue social, sociétal, d'un point de vue économique, en fait, c'est eux qui, en fait, se développent de la meilleure manière qui soit. Et t'as les wartime funders qui, eux, en fait, sont dans les situations de crise les plus extrêmes, en fait, se révèlent. Nous, on est vraiment des wartime funders. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, bon, je devrais pas dire ça, mais la situation de crise actuelle fait qu'on tire le meilleur de nous-mêmes. On est en train de détruire, de démonter, clairement, les compteurs. Parce qu'en vrai, on s'en est rendu compte, là, dans cette crise, encore, par rapport à notre expérience qu'on a eue, notamment, avec Texa, où on s'est vu au pied du mur, on a trouvé, on a su rebondir. Et là, avec cette crise-là, on arrive à rebondir et de manière encore plus fracassante. Donc bon, on ne souhaite pas que la crise dure trop longtemps, évidemment, mais en tout cas, bon, voilà, c'est une situation dans laquelle nous, on arrive bien à s'adapter et sur laquelle on arrive bien à évoluer. Mais maintenant, j'ai oublié ta question, Geoffrey.
Ma question, c'était est-ce qu'il y a eu des bonnes idées ? Bon, il y en a eu pas mal, des bonnes idées. Il y a eu ce moment où vous pivotez. Et est-ce que dans l'exécution, dans l'organisation, il y a eu des choses où vous vous êtes dit, là ce truc-là, on était content de l'avoir trouvé ?
C'est très difficile de répondre à cette question avec le peu de recul qu'on a, parce que des bonnes idées, on pense en avoir sur le moment, en fait. On pense que ce sont des bonnes idées. Il faut un peu de temps, en fait, pour pouvoir tirer des conclusions et se dire, OK, ça, c'était vraiment une bonne idée. Ouais. Maintenant, investir, j'en ai une. Investir, et d'ailleurs, ça, c'est un conseil, dans la communication. C'est-à-dire que nous, on a beaucoup investi sur la SEO. Aujourd'hui, si tu tapes Heroku versus AWS ou AWS versus Heroku, Heroku Alternatives, Environment as a Service, Deploy On-Demand Environment on AWS, etc., dans tous ces mots-clés, en fait, on est en première position, on est dans les premières positions. Pourquoi ? Parce qu'on investit dans le SEO et dans le contenu avant même d'avoir un produit, c'est-à-dire dès jour 1. Dès le mois de décembre, quand on était en train de construire notre MVP, on était déjà en train de faire du contenu. Et ça, c'est un conseil que je peux donner aux first-time founders, à tous les autres founders, c'est vraiment d'investir finalement dans le contenu. Ça nous permet de construire notre brand, de développer aussi notre business, de rassurer les clients, ça crée aussi une situation de trust avec nos clients. Et ça, c'est vraiment top. Ça a été vraiment une très, très bonne idée qu'on a gardée et qu'on a même amplifiée, puisqu'aujourd'hui, on communique même de cette manière d'un point de vue interne.
Voilà. OK. Non, mais canon, ça, c'est un bon feedback. Un mot sur ton rôle de CEO. C'est naturel pour toi, ce rôle-là, le rôle de patron, de manager, de leader ?
Je ne sais pas, c'est une bonne question. Est-ce que c'est naturel ? Non, c'est quelque chose qui vient... Moi, j'étais... Quand j'ai au Techstars, donc pour tous ceux qui, tous les alumni Techstars qui m'ont connu, j'étais quelqu'un de relativement en fait assez effacé. Pas forcément, j'étais pas à l'aise à prendre la parole ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qu'on apprend à faire. Il faut pas avoir peur. Il faut le dire aussi. Hein. C'est pas évident d'aller par exemple sur BFM et puis pouvoir en fait expliquer ce qu'on fait. Hein. C'est assez impressionnant. Donc c'est des choses qu'on apprend en fait sur le tas. Et moi, mon rôle, c'est juste de donner les moyens à mon équipe, en fait, faire en sorte que mon équipe puisse faire leur travail dans les meilleures conditions possibles. Ce que je leur dis, alors je suis un peu vulgaire, désolé, mais c'est vrai que si je dois aller nettoyer les chiottes pour que, en gros, mon équipe puisse faire en fait leur travail et passer du temps utile sur des choses qui ont de l'importance, eh ben je le fais. Moi, mon seul travail, c'est finalement de régler les problèmes des clients, de mes collaborateurs, faire en sorte qu'ils soient dans les meilleures conditions possibles pour pouvoir travailler. C'est mon seul taf et bien évidemment donner la direction. C'est ça mon travail en fait. Donc, je suis à disposition, comme je leur dis, je suis à ta disposition pour quoi que ce soit.
Une fois, tu m'avais dit que tu n'étais pas un bon manager. C'était une blague ou on peut être un bon CEO sans être un bon manager ?
Je suis pas un bon manager du tout, tu as raison. Parfaitement, Geoffrey, je te l'avais dit et je le redis, et je suis pas un bon manager. Et merci, Dieu merci.
Et tu l'assumes vis-à-vis de tes équipes, c'est un truc que tu...
Ouais, je l'assume parfaitement et c'est pour ça qu'on a une très bonne équipe, hyper calibrée. Pierre, qui est un excellent, qui était mon N+2 il y a 10 ans. Donc, c'est CTO, c'était mon N+2, qui est un excellent manager, qui est extrêmement bon et pour lequel j'ai un énorme respect parce qu'il a vraiment cette patience, cette façon, en fait, d'expliquer les choses, d'accompagner les gens. C'est incroyable, franchement. C'est peut-être pour ça que je suis là où je suis aujourd'hui. Hein. Il m'a accompagné, hein, finalement, comme quoi les managers sont hyper importants. Il faut pas mettre manager versus leader. C'est vraiment deux choses différentes, hein, évidemment. Exactement. Et on a, pareil, on a Marie, on a des gens qui sont hyper calibrés, Romain, Alessandro, en fait, dans l'équipe, qui vraiment ont cette capacité à pouvoir, avec une vraie expérience, à pouvoir accompagner, en fait, les gens. Et moi, je suis pas du tout un bon, malheureusement, manager. J'arrive pas à accompagner de manière suffisante dans le temps les collaborateurs. Par contre, je vais leur donner une direction, je vais les pousser, je vais les féliciter, je vais être vraiment présent en fait de cette manière-là. Mais voilà, je serai jamais le meilleur manager, mais il faut connaître ses points forts et ses faiblesses, et ça fait partie de mes faiblesses. C'est vrai que
ouais. Je t'avoue que c'est de l'humilité, mais cette honnêteté intellectuelle, elle est assez fascinante, elle est assez rare dans les mains d'un CEO. Moi, je suis pas sûr d'être capable de faire ça et de reconnaître mes erreurs avec autant de transparence et d'humilité. Donc non, j'en tire mon chapeau. Je trouve ça assez impressionnant. Merci pour toutes ces expériences et pour tous ces feedbacks. On passe à quelques questions rapides. Ça m'intéresse de savoir notamment quelles sont les sociétés tech qui t'inspirent le plus aujourd'hui.
Alors moi, j'ai une société que j'adore et que je cite tout le temps, mais c'est VMware. Alors VMware. Les gens connaissent pas. Ouais, VMware, j'adore. J'adore leur.
C'est pas la plus récente
d'ingénierie.
De toutes.
Non, c'est pas la plus récente de toutes. Incroyable. En fait, ils ont un niveau d'ingénierie que je un peu comme Sun ou Oracle ou Sun en gros sur dans la bonne vieille époque entre guillemets où j'étais très très jeune pour pouvoir en manipuler, mais j'ai pu voir le niveau d'ingénierie qu'il y avait en fait derrière ou les équipes accompagnatrices etc. J'ai un énorme respect. Enfin, je suis assez impressionné, fasciné par ce qu'ils font, et ça a été une grosse source et ça l'est toujours. Et d'ailleurs, un truc, si t'es amené à me voir sur un salon AWS ou un salon tech, on fait d'ailleurs le Cloud Developer Week à Austin en septembre, etc. Je suis sûr que si je retrouve encore le stand VMware, à chaque fois qu'il y a un stand VMware, d'ailleurs, il rigole.
Tu viens renifler l'air de.
Ouais, exactement. Même Morgan, parce que je le fais souvent avec Morgan. Il dit, il va encore aller voir VMware. Je vais voir VMware, je vais parler avec eux, je vais leur demander et tout, qu'est-ce qu'ils ont comme nouvelle feature, comment ça marche maintenant, etc. Donc, je suis assez, c'est vraiment leur niveau d'ingénierie, le niveau produit, en fait, qu'ils ont mis, l'énergie qu'ils ont mis dedans, qui est assez incroyable pour moi. Après, aujourd'hui, en boîte plus moderne, en fait, on a un vrai tissu en France de boîtes tech qui se crée et qui est vraiment, 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 vraiment top. Je pense à Medisearch, je pense à, évidemment, Strapi. En Europe, on a pareil Medusa, etc. On a des boîtes en fait, en gros, qui se lancent. Gameface, qui est une boîte avec des fondateurs français, qui est basée aux US. En fait, on a un vrai tissu technique et technologique et des boîtes en fait qui sont topissimes. Et j'espère que l'écosystème va encore se développer pour pouvoir en avoir encore plus. D'autant plus, il faudrait qu'on ait aussi beaucoup plus de fonds, peut-être un peu plus late stage, pour pouvoir les maintenir en France le plus longtemps possible. Mais bon, ça, ce sont d'autres sujets. Mais voilà.
Ok. Sur le plan pro ou sur le plan tech, il y a des personnes qui t'inspirent particulièrement en ce moment?
Sur le plan pro, sur le plan tech.
Des gens que tu suis, que tu.
C'est une bonne question. Est-ce que je suis des gens sur le plan pro, sur le plan tech? Tu me poses une colle. Est-ce que je suis? Pas trop. Je suis pas quelqu'un qui est, on va dire. C'est vrai que j'ai pas de. Je dois quand même avoir quelqu'un. Je crois que j'avais quelqu'un en tête, mais tu vois, je suis pas quelqu'un qui
est forcément.
Oui, même pas. Je suis assez, okay. On va dire, agnostique. C'est-à-dire que je prends ce qui est de bon, en fait. Même, effectivement, je suis pas mal sur Twitter. Ce qui est bon, en fait, de la personne qui présente la chose. Je vais regarder la chose, puis après, je verrai que c'est la personne. Mais je vais pas être spécialement fan. Je suis
T'es pas
tant un spectateur. Oui, je suis pas trop spectateur. C'est vrai. J'ai pas de personne qui vienne en tête où je suis absolument fan, en fait. Si, peut-être. Il y en a un effectivement dans la tech, c'est je sais pas si tu connais, c'est Andrew Tannenbaum, qui est en gros un chercheur qui a créé Minix, qui était donc à l'époque, qui est un chercheur qui je crois qui est en Hollande, hein, il me semble, qui a créé pas mal de choses et qui a créé notamment une suite de bouquins très didactiques et pédagogiques autour de la computer science, du réseau, des operating systems, etc. Je trouve que ce gars-là, ce qu'il a fait, à chaque fois qu'on me demande en fait des références, notamment pour pouvoir monter en compétence sur la partie technique, je cite à chaque fois son travail parce qu'il a fait un travail qui est phénoménal. Mais voilà, tu vois, je reste assez succinct, on va dire.
Ok. Est-ce qu'il y a un conseil qu'on t'a donné qui s'est avéré utile dans ta carrière?
Fake it until you make it. Okay. celui-là, c'est vraiment, enfin, c'est des trucs vraiment, encore une fois, il faut les mettre en application. Tu sais, on en rigole parce que c'est vraiment bidon. Mais le fake it until you make it, il est vraiment très, très puissant. C'est-à-dire que ça te permet finalement, en fait, de monter une boîte très rapidement, de savoir, en gros, si tu es en train de faire quelque chose qui va avoir, qui a un sens, qui a de l'importance pour des gens ou pas. Donc, il faut pas perdre du temps. Le temps de tout le monde est très précieux. Et ce conseil-là, en fait, est plutôt bon. Et là, il y a évidemment, c'est done is better than perfect. Moi, je le répète souvent à mes équipes, hein, pareil, c'est bien de vouloir faire des choses à la perfection, mais ton produit, si tu le sors pas, si tu le mets pas dans les mains, ta feature de tes utilisateurs, tu sais même pas s'il va être utilisé.
Ouais, limite, s'il est trop bien, il est trop tard.
Mais exactement. Et tant mieux si tu tapes dans le mille. C'est un coup de bol.
Et t'as un facteur chance, ouais.
Ouais.
Et tu parlais de bouquins d'Andrew Tannenbaum. Je sais pas s'il y a des bouquins qui t'ont marqué et que tu recommandes de lire. Pro ou perso aussi, d'ailleurs.
Ouais, sur Andrew, tu parles de Andrew?
Non, je parlais de bouquins en règle générale. Parce que tu parlais de bouquins, ça m'a donné.
Ouais, il y en a un que je recommande vachement, vachement pour ceux qui évoluent, entre autres, dans le monde du VC. C'est Venture Deals. Je sais pas, tu connais Geoffrey?
Non.
Venture Deals, ah, c'est un bouquin qui, en gros, c'était notre bouquin de table de chevet.
Oui.
De chez Techstars. Donc, quand on arrive à Techstars, hein, donc c'est vraiment, oh. Bon, ils vont pas aimer si je dis que c'est une espèce de dictature, mais, c'est très formateur, hein, c'est-à-dire que faut vraiment aimer, il faut prendre les choses. Nous, on était vraiment dans une optique d'apprendre. Donc, on prenait tout, on buvait tout ce qu'ils avaient à nous donner. Ils nous ont mis, en fait, une pile de bouquins à lire. Donc, t'arrives, t'as tous les goodies, t'as le t-shirt, etc., t'as ton bureau et tout, c'est top. Et t'as ta pile de bouquins. Et je peux t'assurer que ce bouquin-là, Venture Deals, c'était l'un des meilleurs en fait, que j'ai lu. Moi, d'un point de vue business, j'aime pas les livres business, tout ça, ça m'ennuie. Je préfère lire des livres techniques et j'ai plein de livres techniques que je lis. J'adore ça, par contre. Et Venture Deals, ça te permet de comprendre, de te mettre dans la peau, finalement, en fait, d'un investisseur, comprendre la psychologie qu'il y a derrière, la manière dont il oriente ses choix. Tous les biais, en fait, qui sont, ce qui te permet, en fait, d'avoir toujours un temps d'avance, toi-même, dans tes discussions en tant qu'entrepreneur, notamment si tu veux rentrer sur ce chemin-là. Donc, c'est un livre que je recommande vachement, vraiment, qui est très facile à lire, qui est en anglais, Venture Deals, en fait, de Bradfield. C'est un bijou.
Okay.
Ça a été hyper instructeur. Ouais,
Et il y a un élément chez toi qui m'intéresse de creuser un tout petit peu, c'est aussi le côté, t'as l'air hyper zen, et pourtant, les choses vont quand même assez vite autour de toi. Est-ce qu'il y a t'as des éléments de routine ou d'organisation, ou peut-être des outils ou des méthodes, je sais pas, qui t'aident à organiser ton temps? Parce que tu me disais que t'arrivais à trouver du temps aussi pour être en office hour et à proposer ton temps à des gens que tu connais pas. Donc, ça a ses limites, tout ça. Et je me demande si t'as des tips à partager sur la manière dont tu gères ton temps et tu structures un peu ton agenda.
Ouais. Et d'ailleurs, complètement.
D'ailleurs, c'est ça que tu veux me dire?
Non, du tout. D'ailleurs, ça me fait penser, en gros, à, effectivement, j'ai une méthodologie là-dessus qui m'a été inculquée par Julien Cattard, de Texar, d'ailleurs, qui a monté sa boîte autour de cette routine-là, et d'ailleurs, qui s'appelle le produit Routine. Donc, c'est assez drôle. Et qui était vraiment ça, c'est de maîtriser, en fait, de se réapproprier son temps et de maîtriser son temps. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important, c'est-à-dire de garder le contrôle. C'est de pas, par exemple, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui vont, partager leur calendrier avec un calendrier où il y a t'as des créneaux partout, n'importe quand, comme tu veux. En fait, tu peux booker un créneau quand tu veux. Et ça, alors, calendrier, c'est un bon moyen, justement, de garder le contrôle de son temps, c'est-à-dire sur des meetings, etc., de pouvoir partager le bon lien et de mettre des créneaux qui sont à disposition. Moi, la manière dont je fais ça, c'est exactement de cette façon-là. C'est-à-dire que je garde souvent le matin. En fait, je vais faire, par exemple, les office hours. Typiquement, je vais les allouer, finalement, entre 9h et 10h, le mardi et le jeudi. Voilà. Le vendredi, par exemple, c'est une journée off pour moi. Le vendredi, je veux pas de call, je veux pas de meeting, je veux pas de call, je veux passer du temps avec mon équipe, je veux regarder les sujets de fond, etc. Comme je le fais le lundi. Voilà. Le lundi, pareil, c'est la partie où je m'occupe de mon équipe, je passe du temps avec mon équipe, j'essaie de voir s'il y a des points sur lesquels je peux les aider, etc. Et je veux pas avoir de meeting à part en fin de journée. Voilà. Et j'ai pas mal de choses comme ça, mais j'ai des temps pour faire du sport. Maintenant, j'ai du temps pour passer du temps en famille aussi, parce que c'est extrêmement important. Et d'ailleurs, je remercie ma femme et ma fille, en fait, de me forcer à sortir et lâcher prise un peu sur les choses, hein. Donc, elles sont aussi des éléments, finalement, proches, le cercle proche est important pour pouvoir mieux contrôler son temps, mieux le gérer. Je pense que ça, tu le sais. Et voilà un petit peu comment est-ce que j'organise. Mais c'est vraiment de ne jamais être dans la soumission, c'est-à-dire de vraiment garder ce contrôle, ce plein contrôle. C'est hyper important. J'ai des zones de temps où, en fait, je vais faire du processing email. Je sais pas si tu comprends tu connais le principe de inbox zéro.
Oui, mais
typiquement, le principe, c'est d'avoir, en fait, ta boîte mail à zéro et de pouvoir bien gérer, en fait, l'ordre des priorités en fonction, du type de mail et de qui est-ce qui te l'envoie. Et derrière, de gérer ton temps de cette manière-là. Donc aujourd'hui, ça marche plutôt pas trop mal. C'est vrai que je me mets pas à la pression non plus. Enfin voilà, bon là, mon Xbox Zero, autant te dire, en vrai, il n'est pas Inbox Zero du tout. Mais il va finir en Inbox Zero parce que je vais tout dropper, tout sélecter et tout archiver.
Me renvoyer ça dans 15 jours ou dans 3 semaines à mon retour de vacances.
C'est trop ça.
Est-ce qu'il y a des sources d'apprentissage que tu utilises aujourd'hui pour t'entretenir sur la tech? que tu recommandes que tu voudrais partager, que tu pourrais partager?
Ouais, moi ma source d'apprentissage, il y a deux sources, c'est Hacker News. Je pense que ça, tous Hacker les techs, je leur apprends rien. Ouais, Hacker News, c'est, enfin moi, j'adore. Enfin, ça reste mon site. Je pense que c'est un des sites qui sur lequel je passe le plus de temps. Je suis pas du tout. C'est vrai que je suis pas du tout. En vrai, ce qui est assez drôle et paradoxal, c'est que je suis pas Facebook, je suis même pas trop Twitter. Je le fais Twitter pour m'informer effectivement aussi de la tech, donc c'est le deuxième canal. Mais je suis pas trop LinkedIn, même si je publie énormément dessus en fait.
Ouais,
effectivement. C'est des canaux de communication pour moi. Les canaux d'échange, ouais, moi je préfère après des échanges IRL ou des échanges en visio. Et après en termes d'information pour la partie tech, oui, ça va être Hacker News principalement, vraiment Hacker News. Hacker News, la particularité, juste pour donner à ceux qui sont pas tech. Donc c'est vraiment, si vous allez dessus sur Hacker News, donc tapez, donc c'est un site qui a été hébergé, qui est créé par le Y Combinator, qui existe depuis, je pense, les débuts du YC. Donc vraiment très très vieux, et d'ailleurs le site le montre, hein, il a l'air vraiment tout pourri. Donc c'est une espèce de liste en fait, tout simplement, avec des topics et des threads en fait, de liens de techno. Donc il y a des sujets en fait pas forcément techno, mais qui vont être plutôt, oui, technologie au sens large. Donc on peut avoir l'aérospatiale, etc. Et les gens, c'est très communautaire, c'est-à-dire que ce sont les personnes qui sont sur Hacker News qui vont voter, upvoter ou pas les threads. Donc les threads les plus intéressants se retrouvent en haut. Donc il y a une espèce de comment est-ce qu'on appelle ça, il y a une espèce de filtrage, je sais pas comment, je me rappelle plus du mot qu'on dit pour. Il y a une espèce de filtrage finalement de la communauté pour faire remonter les threads les plus intéressants et plus importants. Ce qui fait que quand on a une journée en fait à temps limité, finalement vous avez 5 minutes pour aller sur votre téléphone et regarder en gros ce qui se fait dans la tech. Bah, le plus efficace, c'est d'aller sur Hacker News. Vous avez déjà en fait un filtre qui a été fait par la communauté.
Ok, canon. Bah, je connaissais même pas, tu vois. Est-ce qu'il y a des, en parlant de tech ou de peut-être de product, mais est-ce qu'il y a des choses que tu as vues récemment où tu t'es dit ce sujet-là, cette techno ou ce produit-là, ça va vraiment être un truc fort ces 10 prochaines années?
Ah, c'est intéressant, c'est une très très bonne question. Il y a un biais que j'ai, et tout ce que je dis encore une fois n'est que le fruit de mon expérience et mes biais cognitifs qui vont dans tous les sens. Mais je sais pas, je suis peut-être j'ai peut-être été anesthésié par les effets d'annonce et en fait les choses où on se dit waouh, c'est waouh, ça va être un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que d'un point de vue tech, j'ai pas été impressionné.
Non.
Ouais, peut-être non. Même la blockchain en soi, si on regarde fondamentalement, effectivement, enfin, il y a rien de rocket science en fait derrière. Après, c'est les cas d'utilisation. Là où je vais être beaucoup plus intéressé et un peu plus curieux aujourd'hui, ça va être moins la technologie, mais ça va être de ce qu'on en fait. C'est-à-dire, finalement, quels sont les cas d'utilisation de cette technologie-là? C'est là où ça va être beaucoup plus intéressant. D'un point de vue technique, on peut faire beaucoup de choses, on peut faire trop de choses. Mais les cas d'utilisation, souvent, bah, sont pas alignés avec le niveau de technicité qu'il y a. Et okay. Je vais être beaucoup plus intéressé par les use cases aujourd'hui.
Ouais.
Okay. Je sais pas si ça répond à ta question.
Non, mais c'est intéressant. Mais en tout cas, ça m'interpelle qu'à ton niveau, mais c'est peut-être parce que tu baignes dedans depuis longtemps.
Ouais.
Que les technos d'aujourd'hui ne te fascinent pas plus que ça, parce que, en fait, déjà parce que tu les comprends, peut-être plus que d'autres,
ouais.
Et ensuite parce que tu as dû les voir venir depuis quelques temps et que c'est peut-être plus aussi bluffant que ce que ça l'a été quand tu les as découvert.
Ouais, ouais. Il y en a une qui m'a quand même bluffé là dernièrement, je pense que tout le monde en a parlé dans la zone tech, et je l'ai testé parce que moi je suis quelqu'un d'assez late, c'est-à-dire je suis assez hermétique, j'essaie de pas être trop sur le devant de la scène de toutes les lancées technologiques, etc. Sinon on peut perdre du temps, ouais. Et perdre sa vie à faire ça, à tester des choses. Par contre, j'ai testé suite d'un commentaire mon CTO, qui donc Pierre, qui m'envoie un message, il me dit regarde Copilot, regarde ce que j'ai réussi à faire, etc. Donc GitHub Copilot, en fait c'est une IA qui te permet de générer du code à partir en gros du code que tu lui injectes. En fait, tu peux déjà commencer à définir tes fonctions, définir en fait, mettre des commentaires de code, et il va te générer le code associé en fait dont tu as besoin pour faire ce dont tu as besoin. Et j'étais un peu sceptique, comme beaucoup au départ, etc. J'ai testé sur la documentation, parce que je suis toujours impliqué sur le produit, etc. Donc je vais vraiment aider mon équipe là où je peux les aider. Et j'ai commencé à utiliser cette IA là, donc GitHub Copilot. Franchement, j'ai été bluffé. C'est bluffant. Même sur de la documentation, ça me générait en fait les bons patterns, ça me générait la bonne documentation, et ça comprenait mes intentions. C'était surtout ça. Et ça, c'est ça vraiment, là je me dis, pour une fois, l'IA, c'est pas bullshit, entre guillemets, et ça a un vrai cas d'utilisation, tu vois. Là, je parle vraiment du use case, pas de la techno, mais vraiment du use case. L'IA pour justement aider à la création de valeur, notamment créer du code beaucoup plus rapidement, d'être beaucoup plus productif, et pas avoir à se faire chier sur Google, sur Stack Overflow, etc., tester des trucs, alors qu'en fait, on l'a déjà réécrit peut-être 1500 fois et que tout le monde l'a fait dans la communauté. Ouais, ça, c'est
tout un... Tout en
ça,
comprenant c'est où tu veux aller, pas mal.
Ouais, les intentions. Exactement. les intentions.
Bluffant, ok. Est-ce qu'il y a une app dans ton téléphone que tu recommandes à tout le monde d'avoir ?
Je suis pas très téléphone, j'avoue.
Ok.
J'utilise que le Chrome.
Ok. Petite question plus perso pour moi, mais est-ce qu'il y aurait une personne dans l'écosystème qui te paraîtrait intéressant pour moi d'avoir à ce micro et qui aurait une expérience un peu inspirante ou qui sort un peu de l'ordinaire ?
Ah ouais, bah carrément, complètement. Je pense que, encore une fois, dans les personnes que j'ai citées, je pense qu'il y a une personne à laquelle je pense et que j'essaie de placer le plus possible, pas par intérêt du tout, mais parce que je le trouve vraiment très sympathique. Il a beaucoup de choses à parler, mais il est peut-être un peu timide ou un petit peu en retrait de la scène. Pourtant, son produit cartonne. C'est le CEO de Medisearch. Quentin, salut Quentin. Le CEO de Medisearch, il mérite vraiment à être connu et entendu. Et je pense que c'est quelqu'un avec qui tu devrais échanger, avec qui ce serait super agréable.
Et c'est bien noté.
Vraiment.
Ouais. Merci pour tous ces noms, ces conseils, ces feedbacks. C'était canon. Merci Romaric pour cet échange.
Merci beaucoup Geoffrey. Merci à toi.
À bientôt. Salut. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, suivez-nous sur LinkedIn ou directement sur notre site togetherbytech.com. Prochain épisode dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien.